prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, les cris du silence.
Je voudrais vous inviter à faire une lecture avec moi, une lecture très courte. Il s'agit du psaume 27, verset 9, la deuxième partie du verset 9. C'est un psaume de David et il exprime un sentiment très fort et il dit ceci dans la deuxième partie du verset 9. « Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Je relis ce verset 10 parce que c'est sur lui que nous allons réfléchir ce matin. « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Je voudrais donner une information avant d'entreprendre la méditation, la découverte de ce texte. C'est que le message qui suit n'a pas pour but de juger les erreurs ou les défaillances conjugales et familiales, mais de partager, de réfléchir ensemble sur l'état de souffrance des enfants, conséquence des séparations, des mésententes, du divorce si courant aujourd'hui. Alors c'est un sujet dont je vous ai quelque peu parlé il y a plusieurs semaines, il était sur mon cœur. Nous sommes à même dans le ministère pastoral d'entendre beaucoup de choses, d'entendre des cris, des détresses, et c'est vrai de vivre et de partager souvent des choses qui sont cachées. Il y a beaucoup de douleurs secrètes. Et dans ce sens, j'avais donc sur le cœur de partager avec l'Église, parce que je crois que nous les chrétiens, nous avons une autre raison de penser, et nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous a sauvés et qui vient encore à notre aide. Et c'est vrai que pendant ces 15 jours où nous sommes partis avec mon épouse, non seulement nous en avons parlé, nous avons médité, nous avons prié autour de toutes ces questions. Et voilà, c'est un message qui sera donné en deux parties. La première partie, c'est « Mon père et ma mère m'abandonnent ». Et la deuxième partie que nous verrons ultérieurement, c'est « Mais l'Éternel me recueillera ». Alors, j'aimerais reprendre tout simplement et vous dire certaines choses de la part de Dieu. Quand David parle de cette façon, il exprime « Mon père, ma mère, soient mes parents ». En d'autres termes, « ceux qui m'ont donné la vie ». Moi qui suis le fruit de leur union d'amour. C'est certainement l'évocation dans ces derniers mots que je viens de citer de la plus belle chose de l'existence humaine. Entendez par là les liens d'affection dans le cadre privilégié et unique de la famille. Vous savez que la famille se porte mal, dans notre temps. Cependant, cette belle unité a disparu, objet de la plainte douloureuse de David. Il l'écrit. Je ne sais pas ce qu'il en était, mais toujours est-il qu'il l'écrit. Et il rappelle « Mon père et ma mère m'abandonnent », ce qui pose une question. La question qui peut être évoquée, c'est « Eux-mêmes, mes parents, ont-ils abandonné d'être ?» Comprenez le mot ? Abandonné d'être. Et ça, c'est d'une grande importance, abandonner d'être l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, l'un à l'autre. Et cet abandon a fait conséquemment des victimes dont je donnerai un adjectif qui s'ensuit, c'est-à-dire des victimes innocentes. Résultat, les cœurs, à tous les niveaux, sont déchirés. Les cœurs présentent une blessure à l'amour. Et la Bible nous parle essentiellement d'amour. Blessure est le mot juste, me semble-t-il, ainsi que l'exprime le texte suivant dans Zacharie, au chapitre 13 et au verset 6, et ça c'est un mot, un texte qui m'a souvent parlé. Écoutez bien, il est dit ceci, c'est une question. Et si l'on lui demande « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains ?» Il répondra « C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. » Je trouve que ce texte est pathétique, il est vibrant d'émotion, parce qu'il nous parle bien justement de ce que nous allons découvrir maintenant. Où sont ces blessures ? Quelles sont ces blessures ? Où tu as reçu ces blessures ? Eh bien, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Ceci dit, nous allons en venir à notre propos. Et notre propos sera les enfants de la séparation ou les orphelins des temps modernes. On peut le décliner sous différentes appellations. J'ai été assez bouleversé dimanche dernier dans les actualités, et ça venait confirmer peut-être le moment de donner ce message. Il y a eu, dans le week-end passé à Paris, un salon qui était intitulé « Le salon du divorce ». Peut-être certains, vous avez saisi ce moment. Ou comment réussir un divorce heureux ? Ils ont donné quelques statistiques, ça durait quelques minutes, très court. En 1970, c'était déjà beaucoup, il y avait 10% des couples qui se séparaient. En 2010, il y en a 50%, donc 1 sur 2. Et j'ai anticipé, ça n'a pas été dit par le chroniqueur, mais j'ai anticipé au rythme 2010. 2050, on aura atteint le chiffre de 90% de couples qui ne resteront pas ensemble, si ça va à la même vitesse. Alors c'est quand même préoccupant, et je crois que nous, même dans nos églises, nous avons besoin de réfléchir à la question. Parce que les souffrances, elles sont sur les champs de bataille, elles sont là où les gens ont faim, mais elles sont aussi dans notre pays, elles sont parfois aussi dans nos familles. Et dans ce salon du divorce, appelé pudiquement « Comment réussir ?», alors il y avait un gadget qui était présenté, un gadget parmi d'autres, c'était celui-ci. L'invention d'un calendrier semainier, où il y avait des jours roses chez maman et des jours bleus chez papa, pour surtout ne pas perdre ses repères. Naturellement, cela fait appel à la garde alternée. Mais vous savez, il y a une chose qui est attristante dans notre monde. Des salons du mariage, il y en a tous les ans, il y en a partout, etc., etc. Mais il y a une chose qui est particulièrement attristante, c'est que ici, comme dans tout le reste, ce sont des bons coups de marketing. Et là, c'est quelque chose de terrible. En piétinant les vies, en piétinant les cœurs, en n'ayant aucun égard de la souffrance, des douleurs, des cris. Et de cris, on va en parler ce matin. Certains mots terribles sont passés dans notre vocabulaire courant. Le mot séparation, divorce, rupture, division. C'est un fait de société. Ça, c'est certain. Et quand je pense aux enfants, je les appellerai les subissants ou les dommages collatéraux, si vous voulez. Fait de société, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Nous avons une réponse, la Bible a une réponse, Jésus a une réponse, l'Esprit de Dieu, qui est un esprit d'amour, a une réponse. David affirme néanmoins qu'au sein de sa détresse, sa foi et son espoir de secours est en Dieu seul. On n'a pas besoin de forum du mariage ou du divorce, de ceci ou de cela, et de recourir à ceci ou cela. David, il y a 2800 ans, exprime, affirme que son espoir, son espérance est en Dieu seul. Ce Dieu, son Dieu, qu'il sait créateur et qu'il sait initiateur du véritable et fidèle amour. Il y a deux mondes. Il y a notre monde à nous et il y a le monde qui appartient au Seigneur, qui appartient à Dieu. Et à la différence des hommes, Dieu n'oublie jamais d'être. J'ai commencé tout à l'heure cette réflexion en disant que peut-être les parents oublient d'être. Mais Dieu n'oublie jamais d'être. J'aimerais donner quelques textes référents à la fidélité indéfectible de Dieu. Je voudrais vous dire que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dans Ésaïe 49, vous vous souviendrez, quand bien même une femme, une mère, oublierait l'enfant qu'elle allait, Dieu dit, moi, je ne t'oublierai pas. Ce sont des mots forts, des mots qui ont une puissance. D'autres textes encore, il nous est dit que Dieu ne se départit jamais de sa compassion. Et dans Ésaïe chapitre 54, il nous est souligné cette parole, et c'est Dieu qui parle, « Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. » Un peu plus loin, « Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Ton rédempteur. Et vous savez que dans le mot rédempteur, il y a la notion de rachat. La notion, naturellement, de rachat. Un peu plus loin, il nous est parlé également que Dieu n'a jamais, nous sommes ses fils et ses filles par droit de création et de rédemption. Jérémie 31. Il est parlé d'une tribu qui était chère au cœur de Dieu, comme les autres, naturellement. Il est dit, « Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues de faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. J'aurai compassion de lui. Je lui donne mon amour. » Revenons sur ce mot terrible, « séparation ». Je voudrais le dire, c'est un lieu commun, mais je voudrais le dire et le redire. Un enfant verra toujours ses parents comme le centre de sa vie. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on pourra toujours donner des explications ou des excuses ou des prétextes. Parce que la parentalité représente l'amour. Elle représente l'affection. Elle représente l'équilibre, elle représente la sécurité, la protection, et elle représente aussi quelque chose de très important pour notre société, notre monde, l'exemple. Il y a ce reproche divin qui sort du livre de l'Apocalypse, dans le rapport existentialité-spiritualité, quand Dieu dira à l'église d'Éphèse, malgré beaucoup de qualités, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oublié d'être. Je dis que c'est une blessure à la foi. Entendez par là, c'est une blessure à la confiance. Et l'on peut dès lors comprendre que tant d'enfants meurtris au cœur aient du mal à croire en Dieu. Tant d'enfants devenus des hommes ont du mal à croire en Dieu. Parce qu'il y a ce rapport de ce que nous sommes ici-bas et de ce qui est également dans le ciel. Beaucoup de mal à croire en Dieu, en un Dieu invisible, croire à son amour, croire à ses plans constructeurs et bâtisseurs de notre vie. Alors que l'exemple, celui-là visible, celui des parents, qui se déchirent, est dégradé et déprécié à leurs yeux, aux yeux des enfants. Les parents se doivent, me semble-t-il, de donner une bonne image de leur Père céleste. Les parents chrétiens se doivent de donner une bonne image de leur Père céleste à leurs enfants. Non la démonstration théologique que Dieu existe, que Dieu est créateur du ciel et de la terre, que Dieu est ceci et cela, mais la démonstration d'une entente, de la tendresse et de l'amour, et de la complicité. Ça, ça change tout. Le meilleur exemple que nous puissions laisser à nos enfants, c'est de nous voir nous aimer l'un l'autre. Tous les couples ont des difficultés. Il y a des chocs, il y a des heurts, il y a des mésententes, il y a des choses comme ça. C'est quelquefois inquiétant quand il n'y a pas cela. Mais toujours est-il que quelque part, c'est si important de laisser cet exemple à nos enfants. Soins et attention matérielle et autres. Naturellement, c'est ce que nous faisons. Mais écoutons ceci sur les vrais besoins de nos enfants. Je dis bien les vrais besoins de nos enfants. C'est Jésus qui en parle dans l'évangile de Luc et au chapitre 11 et au verset 11. Écoutez bien le rapport qu'il y a dans notre réflexion. Il est dit « Quel est parmi vous le père ?» J'ajouterai « mère, parent. » « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Ou « S'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ?» Ou « S'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?» Et Jésus d'ajouter « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit, les vraies valeurs, le véritable amour et tout ce qui découle de la personnalité et des prérogatives de Dieu, donnera-t-il tout cela à ceux qui le lui demandent ?» Écoutez, nous sommes dignes, nous avons une dignité de parents. Si un enfant a faim, nous allons lui demander nous allons lui donner à manger. S'il a besoin de pain, on ne va pas lui donner une pierre. S'il a besoin d'un œuf, on ne va pas lui donner un scorpion ou un insecte et tout ce que vous voulez. Ça, c'est le cœur, finalement, d'un père et d'une mère. Et nous pourvoyons à leurs besoins matériels. Nous pourvoyons à tout ce qui est nécessaire, à leur instruction et tout ce qui est, finalement, formateur et indispensable pour qu'ils deviennent des hommes. Mais attention, ils ont besoin d'autre chose. À combien plus forte raison, si vous savez donner ces choses, à combien plus forte raison, eh bien, Dieu peut donner, mais vous aussi. Vous avez besoin aussi de donner autre chose. Un foyer. Mais un foyer qui véritablement est traversé, où le souffle de l'esprit passe, où la concrétisation, la vie, de cette parole, eh bien, est là, installée, comblée et rassasiée. Et nous sommes dans une société où il y a, c'est vrai, beaucoup de rassasiement jusqu'à quelquefois, eh bien, le rejet. Hein. Nous allons arriver à une période, je le dis à chaque fois, mais bénissons le Seigneur d'avoir ce que nous avons, sur le plan matériel et bien d'autres choses. Alors, comblés et rassasiés. Mais il y a une immense souffrance, qui est une carence cruelle d'un foyer où l'amour exemple a disparu. J'ajouterai, il n'existe plus. Quand le climat d'amour n'est plus, on comprend aisément la révolte à l'autorité. Il y a des parents qui sont en détresse, pour différentes raisons. Nous avons aussi ce genre de contact. Ils ne savent plus quoi faire. Il y a parfois des enfants ou adolescents qui battent leurs parents. Ça ne vous choque pas? C'est courant, hein? Qui injurent, qui se prêtent à toutes sortes de choses épouvantables. C'est une véritable souffrance. C'est quelque chose. Aucun respect. L'autorité extérieure. L'autorité qui nous gouverne, etc. Le rejet, le mépris, des autres et le rejet et le mépris de Dieu. L'enfant qui grandit dans ce contresens des principes enseignés de Dieu va tôt ou tard se heurter. Oui, tôt ou tard, il va y avoir quelque chose. Parce que il n'a plus de visibilité. Les repères sont des repères confus. Les références sont brouillées. Son image ou l'image, la référence, est une image voilée. Je dirais même défigurée. Et imaginons la désillusion dans l'âme innocente et vulnérable d'un enfant. Ça se complique et ça prend des proportions lorsqu'il devient adolescent, parce qu'il prend conscience que il est en devenir un homme, un petit homme pour l'instant, mais avec quand même une affirmation de sa volonté, de ses choix. C'est ce que nous entendons tous les jours, n'est-ce pas? C'est ce que nous voyons. Alors le drame de la séparation des parents n'est-il pas celui de l'homme aussi avec son Créateur? Vous savez, nous vivons dans une société, et je me permets de faire la parenthèse, mais une société soi-disant chrétienne, de culture chrétienne, mais profondément laïque et athée. Oui, que reste-t-il du premier amour, s'il fut. Et plus l'on va, et bien plus on s'aperçoit de cette séparation, et on s'aperçoit que c'est un problème de crainte quelque part, et je ne dis pas crainte synonyme de peur, je parle de crainte synonyme de respect. Alors, brièvement, nous allons examiner les répercussions de cette situation qui envahit notre monde et qui, parfois, se fait jour dans nos communautés. Les répercussions sur les enfants. Et j'ai intitulé notre message ce matin « Les cris du silence ». C'est quand même assez particulier. Les cris du silence. Il y a deux mots. D'abord le mot « cri », et on sait ce que ça veut dire. Et ensuite, il y a « silence », et on sait ce que ça veut dire aussi. C'est assurément un paradoxe qui explique le ressenti frustrant. Entendez par là, quel que soit l'âge des enfants victimes de la séparation. Il y a les petits, en bas âge. Il y a les préados qui vivent ce genre de choses. Il y a les adolescents. Il y a les jeunes adultes. Et il y a quelquefois des gens jusqu'à très très longtemps qui ne se remettent jamais de ces blessures de l'enfance. Je dis bien, jamais. Je ne dirais pas si ce sont les hommes ou les femmes qui sont les plus sensibles. Il y a les deux, me semble-t-il. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose dans la jeune plante, une racine essentielle qui aurait été arrachée quelque part et qui portera toute sa vie. Qui peut porter toute sa vie s'il n'y a pas l'intervention de celui dont nous parlerons la prochaine fois. On a entendu, on a écouté, on a observé, on a prié. Ça ne se dit pas ces mots. On ne veut pas en parler. Parce que c'est difficile, assurément, c'est difficile. Mais sans en parler, il suffit de comportement, d'un geste. Il suffit peut-être d'un regard pour sentir qu'il y a dans le secret de ces personnes une grande douleur, une grande souffrance. Quelque chose de difficile, assurément difficile. Et je voudrais simplement dire que quand on est confronté à cela, ça fait très mal. Je ne sais pas si ça vous fait mal, mais moi ça me fait très mal de voir des choses pareilles. Alors, ce ressenti qui cache un terrible secret si difficile à partager, je dis que ce sont des cris étouffés, mêlés de honte, de révolte et surtout d'impuissance. Parce que là, il n'y a pas grand-chose à faire. Pas grand-chose à faire. C'est un silence qui est semblable... Permettez-moi, c'est une image peut-être saugrenue, mais c'est l'image d'un pansement trop serré sur une plaie, comprimé. qu'il ne faut surtout pas mettre au jour. Parce que ça représente une boîte de Pandore à tenir fermée à tout prix. Parce que là, c'est l'ouverture de d'autres malheurs. Alors on n'en parle pas. On reste comme ça. Alors aujourd'hui, certainement, on a évoqué tout à l'heure le salon du divorce. Il y avait certainement toute une armée d'avocats, une armée de psychologues, de psychiatres, etc., etc. D'accord. Mais bon, moi j'ai toujours fait la différence entre ce que les hommes peuvent faire pour apaiser, calmer la souffrance, l'endormir, donner des soporifiques, des somnifères et des antidépresseurs et tout ce que vous voudrez. Et puis l'autre dimension qui est véritablement une dimension qui est la délivrance de Dieu, une libération du Seigneur par l'Esprit de Dieu. Vous savez, les hommes dans ce monde, et tout en reconnaissant leur capacité, leur dévouement et leur commisération pour les souffrances du monde, ne font que colmater les brèches. Ils mettent des emplois, des pansements. Et même quand on est guéri, lorsqu'on se relève d'une opération alors que l'on devait peut-être passer de l'autre côté, ce n'est que pour un temps parce qu'il va falloir mourir quand même. Mais quand Dieu guérit véritablement, il touche profondément, et il ne nous guérit pas pour le temps, il nous guérit pour l'éternité, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Ces cris retenus, forcément, trahissent un choc, un séisme, lorsque la famille n'existe plus, quand quelqu'un n'est plus là. Alors comment vivre? Plutôt, excusez-moi, c'est un euphémisme, comment survivre au tremblement de terre domestique. J'ai parlé de survivre, on pourrait peut-être parler de surnager, quand le cœur se fissure et se dérobe, perdu dans le vide inexpliqué du manque quotidien, parce qu'il manquera toujours quelqu'un. Il faut faire la différence entre un enfant qui perd un de ses parents par la mort et un enfant qui perd un de ses parents par le divorce, par la séparation, par la mésentente. C'est deux choses différentes, et les choses sont vécues différemment. Mais ce n'est pas tout, frères et sœurs. On va aller plus loin. La douleur d'un enfant s'accroît lorsque le parti pris est le jugement de l'entourage. Et l'entourage, quelquefois, ça peut être les grands-parents, ça peut être les tontons et les tatas, ça peut être les cousins et les cousines, ça peut être même les amis, les plus proches. Lorsque, j'ai dit, le jugement de l'entourage s'en mêle. Alors comment choisir? Qui choisir? Dans ce remaniement, on entend parler de remaniement en ce moment, hein? Remaniement, mais familial. Ouais, familial. Remaniement. Ou alors les cartes se sont redistribuées. On a congédié l'équipe d'avant et on se dit maintenant, on recommence tout. On refait avec un nouveau Premier ministre. Avec... Ouais, enfin bon. Remaniement familial où trouver sa place est extrêmement difficile pour un petit, même pour un adolescent. Il n'a plus son lieu, il n'a même plus peut-être sa chambre, parce que tout ça, c'est en garde-meuble. Tout ça, ce sont des repères qui ont volé en éclats. C'est terrible, hein. Je dirais, il ne peut plus trouver sa place. Et s'il la trouve, c'est une place par défaut. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Place encore deux ou des enfants quand ils sont pris comme confidents. Bouh, c'est terrible. Vous ne croyez pas qu'il y a des enfants qui sont responsabilisés un petit peu trop tôt? Ouais. Connaissez la chanson d'Hugo Frey, Céline? Si vous l'écoutez, vous verrez les paroles. Pourquoi Céline? Très intéressant. Oui, comme confident. Confident de papa contre maman et de maman contre papa. Ça, c'est difficile pour un enfant. Le cœur ne peut pas. Parce que lui, il est entier. Dans son cœur, il y a un cœur d'enfant. Mais il y a papa et maman, ils sont un dans son cœur. C'est pas possible autrement. Quand l'aîné s'évertue, parce qu'il est un petit peu plus âgé que les autres, quel que soit son âge, s'évertue à protéger les plus petits en se substituant aux devoirs et à l'affection de ceux qui ne sont plus ensemble pour le faire. Il y a des héros parmi les enfants, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on ne peut pas laisser la maison comme ça. Parce qu'il faut faire le ménage. Parce qu'il faut s'occuper des plus petits. Quelquefois, certains ont consacré toute leur vie au sacrifice de leurs propres intérêts ou de leur propre existence. Oui, parce que quelqu'un n'est plus là, tout simplement. Et si, éventuellement, il y a quelqu'un qui remplace, ça ne sera jamais pareil, ça ne peut pas être pareil. C'est encore une autre question. L'alternance ne donnera jamais le même résultat. Ce n'est pas possible. Et je parlerai d'une précocité dangereuse qui abîme l'innocence et qui vole l'enfance. Oui, vous savez, un enfant, hein. Excusez-moi, mais il ne voit pas le mal. Il va le voir à un moment ou un autre. Il va le voir parce que peut-être qu'on lui a appris, on lui a mis sous les yeux. Mais un enfant, c'est beau un enfant. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Plus je vieillis, plus je trouve que les enfants sont beaux. Je deviens un petit peu... Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est beau. On a eu les nôtres, hein. Ils étaient beaux. Mais je trouve que c'est formidable. Je ne sais pas ce que partagent mes frères et mes sœurs qui sont arrivés à un certain âge. Ouais. Alors, ce vol, cette main qui touche et qui détruit, qui abîme, c'est terrible. Crise encore. Lorsque la déchirure est vécue comme une immense trahison. Abandon injuste et injustifié. Parce qu'on y croyait quand on est un petit. On y croyait à papa et à maman. Alors, ça semble tellement... C'est vrai, c'est une forme de trahison. On se dit, mais moi, je suis au milieu et qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais devenir? Pour tout enfant, un père et une mère ne se quittent pas. Mon père et ma mère m'abandonnent, dit David. Que dire aussi des cris qui sourdent? Oui. Au tréfonds des jeunes cœurs, le poids de la culpabilité. Et je vais vous dire quelque chose qui est reconnu par tous. C'est que beaucoup d'enfants, dans ce cas, croient et endossent la responsabilité de la séparation et s'en imputent la faute. Et disent, eh bien, si mes parents se séparent, c'est à cause de moi. D'ailleurs, les disputes, elles viennent aussi autre... Voilà, ça peut venir parce qu'on ne s'entend pas. Sur la question, peut-être, il y a bien d'autres choses. Il peut y avoir question d'alcool, le mauvais comportement, l'infidélité, enfin, toutes sortes de choses. Ça, c'est la nature humaine. Mais, entre autres, le petit qui est au milieu regarde. Vous savez, comme au tennis, là, il regarde, il voit la balle passer au-dessus de sa tête. Et ils se disent, mais c'est moi qui suis coupable dans cette affaire. Et ils peuvent le porter très longtemps dans leur existence. Ça peut durer très très longtemps, s'en impute la faute. Cris et silence d'un sentiment honteux, d'un sentiment frustrant qui rend malade. Oui, qui rend malade à 16 heures, malade à en mourir. Je dis bien, parce que ça ne se voit pas, on se cache pour pleurer. Et les enfants pleurent, un enfant peut pleurer. Un adolescent pleure. Des jeunes adultes, même quand ils sont arrivés après 20 ans, 30 ans et peut-être plus, eh bien ils pleurent encore de tout cela. Parce qu'il leur manque quelque chose. Et ça complique la situation de leur vie. Par la vue, et surtout ce qui est cruel, par la comparaison avec d'autres familles, d'autres couples, restés unis. Et ils se sentent à ce moment-là vraiment orphelins. Ils se disent, mais... Et moi, je n'ai pas droit à cela. J'ai été oublié dans la distribution. Ouais. Parce qu'il y a des familles, et je dois le dire, il y a des familles qui marchent. Mais de celles-ci, on n'en parle pas. Parce que tout ce qui est bien et tout ce qui marche, on n'en parle pas. On ne parle que ce qui ne va pas. Ça, c'est la vision de notre monde. Hein. Alors, on se sent à ce moment-là terriblement orphelin. Mais vous savez ce que Jésus dit? Je ne vous laisserai pas orphelin. La réponse, on l'aura la prochaine fois. N'oublions jamais que la douleur de l'amour déchiré extampille, oui, une marque prononcée et profonde, extampille notre société dont le constat est hélas journalier. Et vous savez, ce que nous avons besoin de faire, c'est que tout cela, c'est un état d'esprit. Il n'y a jamais eu tant de divorces. C'est comme si c'était une contagion, comme le choléra, comme les épidémies. On s'aperçoit que ça se répand. Pour un oui, pour un non, c'est comme ça aujourd'hui. C'est notre monde. Mais faisons attention et prions. Et j'engage l'Église à prier pour la solidité dans cet aspect-là. J'engage les maris et les épouses, les frères et les sœurs à prier ensemble. Vous m'avez souvent entendu le dire. Parce que là, c'est un ciment. Et je sais que vous allez me dire, mais la vie, elle est terrible. Moi, je pars à 7h le matin et je rentre à 11h le soir. Comment voulez-vous ? C'est vrai ? C'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. Mais si nous le voulons, à un moment ou à un autre, Dieu nous donnera toujours un créneau, une petite ouverture, une fenêtre pour pouvoir le faire. C'est important de prier ensemble. Et vous savez, quand les enfants voient papa et maman prier, et on prie pour eux, eh bien, ils ne sont pas fous. Nous, on a vu nos petits, qui sont grands maintenant, hein, quelquefois derrière la porte. Oh, ils savaient, ils nous surveillaient. Hein. Ils demandaient ce qu'on faisait. Hein. Mais ils savaient, papa et maman prient, et ils ne nous dérangeaient pas. Hein. Mais ça les rassurait, ça leur faisait plaisir. Et aujourd'hui, en couple, ils prient. Parce qu'ils l'ont vu, tout simplement. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est tout simplement comme ça. Et je voudrais quand même vous dire, on n'est pas la meilleure famille du monde. Hein. On a nos problèmes et nos difficultés, tout simplement. Mais le Seigneur aide celui qui veut être aidé. Le couple qui veut être aidé. Quand il n'y a plus d'amour dans le couple, dans la famille, parce que c'est le noyau sociétal, eh bien, voici la traduction de ce qui se passe, et nous l'avons déjà évoqué il y a un instant, c'est la violence, c'est la haine, c'est l'irrespect, c'est la peur, c'est l'insécurité, ce sont les difficultés d'adaptation, les échecs scolaires, le repliement et la solitude. Et ça, ce sont quand même les maux de notre temps. Et on les génère, on les multiplie, et on fait des forums pour dire comment bien réussir. Ouah ! Vous savez, il ne faut pas regarder les effets, il faut aller chercher les causes. Il faut aller à la racine. Et que penser de l'instabilité ou de la parentalité partagée ? Je le disais tout à l'heure, le calendrier rose et le calendrier bleu. Eh oui. Qui transforme les enfants en enfants valises, toujours en mouvement entre papa et maman, ou à Noël, ou aux anniversaires, ou aux fêtes. Eh bien, tout cela ravive l'absence, mais, marketing oblige, mais, où la mesure de peine est contrebalancée par des cadeaux de compensation. Vous savez ce que les enfants ont besoin ? Ils ont besoin de pain, ils ont besoin de tout ce qu'ils ont, la nourriture et puis des vêtements. Ils ont besoin beaucoup d'autres choses, c'est certain. Mais ce n'est pas de cadeau. Vous savez, le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est de vivre un couple uni. Ça remplacera tout le reste. L'absence de repères, le manque de cadre référent, voire même de confident, et le mot confident, il y a confiance, ouvre la porte à une prétendue et inquiétante liberté privée de modèle. C'est pour ça que les enfants se disent « Ah !» Ils en arrivent même à se réjouir, certains, je ne parle pas quand ça se passe dans les églises, mais en se disant « Maintenant, je vais pouvoir faire tout, parce que de toute façon, papa n'est pas là, maman n'est plus là, etc. » Et je me donne vraiment tous les droits. Et c'est ce qui se passe également. Alors il y a ce cri pathétique qui remonte aussi du livre des psaumes, et c'est encore David qui le dit au chapitre 4, il lui dit « Mais qui nous fera voir le bonheur ?» Et pas n'importe quel bonheur, c'est pas le bonheur matérialiste ou autre, ce que vous voudrez, mais qui nous fera voir le bonheur ? Plutôt, la question, je vais la mettre d'une autre manière. Est-ce que l'amour existe encore ? Est-ce que l'amour existe encore ? Vous allez me dire, oui, regardez. Toute la littérature, les films et tout cela, les films de télé, je ne sais pas quoi, etc. Mais ça existe. Ouais. Artificiel, ersatz de l'amour. Contrefaçon de l'amour. Ah oui, les contrefacteurs, ils savent le faire, hein, y a aucun problème. Mais il n'y a pas de police pour la contrefaçon de ce genre-là. Absolument pas. Est-ce que ça existe encore, l'amour ? Le monde est pétri de ces slogans, qui deviennent finalement une habitude de raisonnement. On se dit, si le couple ne marche plus ou ne marche pas, eh bien, séparons-nous. Formalité. Encore, je ne peux plus ni ne veux faire confiance. Parce que, évidemment, c'est difficile. Certains vous diront oui à la cohabitation, mais non engagé. Non engagé. Jusqu'au jour où, si ça va mal, ou encore, ce qui est la coutume, le duo me va bien, mais toute précaution prise au cas où ça ne marcherait pas. Et ça vous fait une société tout à fait particulière. Je ne porte pas de jugement, je constate. Parce que nous pouvons être vraiment inquiets, non seulement dans le monde dans lequel nous vivons, mais cette infiltration et cette pénétration même au niveau des églises. Vous savez, c'est un souci pour les pasteurs et ceux qui conduisent les églises aujourd'hui. Je crois qu'il va falloir tenir le bastingage en termes de marine. Et si le mariage est un échec, alors on vous répondra, ben, je l'ai vécu, mais je ne veux pas le revivre, à aucun prix. Alors ça ouvre la porte à toutes sortes de choses, naturellement. Traduction, d'innombrables cœurs blessés et de cœurs brisés. Or, Jésus nous dit quelque chose quand même sur le sujet dans l'évangile tout simplement de Luc au chapitre 4 et au verset 18. Il dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. » Je passe. « Pour proclamer aux captifs la délivrance de ces cris du silence. Également pour renvoyer libres les opprimés. » Oui. Et j'en arrive à la conclusion, elle est toute simple. Vous savez, Jésus, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, a dit ceci. Le « Venez à moi, vous tous, venez à moi, vous tous, qui êtes écrasés, qui êtes piétinés, qui êtes désabusés, qui êtes délaissés, abandonnés, vous dont le cœur est en peine et le cœur est en panne. » Parce que pour les mises en panne, c'est vraiment le moyen, ce que nous avons dit ce matin. Et en écho, David, « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Alors, on va déjà ouvrir une porte d'espoir pour la prochaine fois. Là, ce sont les fêtes. J'ai pris le temps de pouvoir expliquer ce que sont les cris du silence. Le non avouable ou le non avoué. Une porte d'espérance. Et la question peut-être que surgit dans vos cœurs ou dans tous ceux qui l'écouteront ultérieurement, est-ce possible de guérir d'une histoire traumatisante de l'enfance? On porte tous des problèmes. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'étaient pas chrétiens, mais qui étaient très unis. Et avec ma conversion, je bénis le Seigneur pour le père et la mère qu'il m'a donné. C'était d'un autre temps, hein. Mes parents se sont mariés il y a bien longtemps. Et on ne parlait pas de ce genre de choses. Et ils s'entendaient. Mais je parle pour les autres. Est-ce encore possible de guérir de cette histoire qui nous marque? Et peut-être certains d'entre vous, vous souffrez précisément. Mais le Seigneur m'a demandé de vous en parler. Parce que le silence n'est jamais forcément quelque chose de guérissant. J'aimerais donner maintenant un témoignage que j'ai lu. Un témoignage d'une jeune femme. Et elle écrit ceci. Mes parents se sont séparés lorsque j'étais une petite fille. Le processus de ma guérison a été long. Difficile, avec des allers-retours comme les vagues de la mer, avec toutes sortes de choses, des espoirs et des déceptions, et ceci et cela. Cette jeune femme est une chrétienne, visiblement. Mais j'ai appris, dit-elle, comme Paul aux Philippiens, j'ai appris à être, j'ai appris à connaître Dieu. Écoutez bien, c'est simplement un petit mot. J'ai appris à connaître mon Père. J'ai appris à connaître mon Dieu comme mon Père. J'ai découvert, enfin, qui je suis. J'ai retrouvé, ou j'ai trouvé ma véritable identité. Non pas en bas, mais en haut. J'ai découvert son pardon pour moi. Et son pardon pour moi, je l'ai vécu de telle manière que j'ai pu le donner aussi autour de moi, à commencer par mes propres parents, à mon père et à ma mère, et de retrouver l'amour qui avait été voilé. Peu à peu, dit cette jeune femme, les chaînes qui me retenaient dans ma douleur se sont brisées. Ne croyez pas que ça se passe du jour au lendemain. Un coup de baguette magique, ça n'existe pas, mais au fur et à mesure. Alors, il y a eu ces maillons qui se sont détachés les uns des autres, qui retenaient cette jeune femme, eh bien, dans sa douleur, ils se sont brisés. Et les cris du silence, les cris de la solitude, l'accablant silence s'est apaisé. Et elle disait tout simplement en fin de son témoignage, « Il m'a restauré et il m'a reconstruite. » Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, croyez-le, le Seigneur est venu pour nous reconstruire de toutes nos blessures. Il s'agit des enfants, mais il s'agit peut-être d'une femme, d'un homme abandonné, brisé par le divorce, brisé par la séparation, qui a été roulé, qui a été méprisé, qui a été maltraité, violenté, violé même. Le Seigneur est celui qui est capable de nous reconstruire. Il est venu et il nous aime. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel m'a recueilli. Je suis reconstruite, je suis reconstruit. Le psaume 23, qu'est-ce qu'il nous dit ? L'Éternel est mon berger et il restaure mon âme. Alors mes frères et sœurs, je finis maintenant. En finir avec l'auto-accusation. On est d'accord ? En finir avec celui qui nous plonge et qui plonge notre monde dans la misère, dans la peine et dans le deuil, dans la séparation, dans toutes ces choses horribles. Nous ne l'écoutons plus. L'auto-accusation, en finir avec l'insécurité, avec la peur d'être abandonné tout à nouveau, avec tout simplement ce sentiment que nous pouvons avoir de ne plus être ou de ne plus pouvoir aimer et d'être jamais aimé, de dire « eh bien moi c'est fini, l'amour ne m'est pas réservé, je passe à côté » et de ne pas pouvoir aimer moi-même. J'ai entendu des confessions de jeunes adultes qui me disent « mais moi je ne sais plus, je ne sais pas comment faire pour aimer. J'ai rencontré une jeune fille, j'ai rencontré un jeune homme, mais je ne sais plus parce que comment faire ?» Et à ce moment-là, vous prenez en pleine figure, et bien finalement, toute votre histoire, tout votre passé en disant, et vous vous interprétez les choses comme si ça va vous arriver à vous. Et vous vous dites, mais c'est pas la peine d'aller plus loin, puisque le marasme, le drame va recommencer avec moi. Je peux croire, et je veux croire encore, qu'une vie affective est encore possible, mes frères et sœurs. Ouais. Il restaure mon âme, il me guérit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, je vous donnerai la santé, je vous donnerai la guérison, je réparerai votre âme. Je crois que quelqu'un peut m'aimer, après tout ça. Je peux, et je crois que je peux être l'objet de son amour, de sa fidélité et de sa tendresse. Je crois. Je parle pour les enfants. Parce que vous savez, je crois que le Seigneur sait très bien choisir pour nous. Celui ou celle, même s'il se fait attendre ou elle se fait attendre, si nous nous tournons vers lui, l'Éternel m'a recueilli. Il sait très bien choisir l'alter ego qui saura nous aider. Il nous donnera le mari, l'épouse, qui conviendra et qui saura comprendre. C'est le miracle de Dieu. Première partie aujourd'hui, les cris du silence. C'est le temps des souffrances et du ressenti malheureux. Deuxième partie, ça viendra. C'est le temps de la restauration. Puis écoutez bien, parce que ça sera le titre. L'adoption divine. Est-ce que vous avez remarqué dans la Bible qu'il y a une doctrine qui s'appelle l'adoption? Vous savez ce que c'est qu'être adopté? Les orphelins. Puis les laisser pour compte de la société et de la vie aujourd'hui. Être adopté, il y a une formidable et une belle doctrine. Parce que l'adoption va nous faire rentrer de plein droit dans notre héritage. Ouais. Et cet héritage-là, je vous le laisse deviner. Vous allez déjà méditer. Si vous avez des pensées, vous me les donnez, je vous les redirai en prédication. Ouais, l'adoption divine. Mais l'Éternel me recueillera. Et je termine encore par cette belle parole, parce qu'elle est belle. Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Et quand elle l'oublierait, dit Dieu, moi, je ne t'oublierai pas. Et Dieu ne vous oublie pas. Dieu ne nous oublie pas. Alors on va prier. Puis moi, je vais prier spécialement ce matin. J'aime pas les signes ostentatoires, alors vous allez rester à votre place. Comme cela, dans le recueillement. Que vous veniez ou que vous restiez sur votre place, pour moi c'est la même chose, c'est votre position de foi. Le Seigneur va passer dans les rangs et il va vous faire du bien. Il va vous redonner l'espoir. Il va vous redonner de voir qu'il y a de la lumière après les ténèbres. Et il va vous guérir. Alors je vais prier pour vous tout simplement. On se recueille quelques instants. Seigneur, je veux te rendre grâce et je te remercie parce que tu es mon Dieu. Mais Seigneur, j'ai un grand plaisir à te dire, tu es mon Père. Ouais, tu es mon Père. Je veux te rendre grâce et je te remercie, Seigneur, parce que ta parole, Père éternel, elle passe dans mon âme et dans mon cœur, et elle me fait du bien. C'est ta parole, c'est pas autre chose. C'est ta parole qui guérit. Il envoya sa parole et il est guéri, nous dit la Bible. Je veux te demander particulièrement pour mes frères et mes sœurs, quel que soit leur âge, peut-être pour les plus jeunes, pour des jeunes gens, des jeunes filles, pour des jeunes adultes, pour peut-être des gens d'âge et même peut-être âgés, eh bien je te demande que tu leur fasses du bien ce matin, que tu passes maintenant par ton Saint-Esprit, tu es là au milieu de nous, et tu t'occupes de leur cœur. Tu leur donnes, Père éternel, une nouvelle vision, non plus de regarder ici-bas, dans le passé, dans leur histoire, et de fouiller, d'être complètement démoli à chaque fois. Mais Seigneur, de regarder à toi, parce que la lumière, elle est en haut. Ô Seigneur, par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus, ta parole nous le dit, et moi je veux me servir de cette promesse. Tout ce que vous demanderez en mon nom à mon Père, il vous l'accordera. Alors moi je te demande pour mes frères et mes sœurs, guéris-moi dans mon cœur, guéris-moi de mon histoire. Guéris-moi de mon enfance, guéris-moi de tout ce que j'ai pu vivre, de tout ce que j'ai pu voir, de tout ce que j'ai pu entendre. Guéris-moi de tout cela, Seigneur, fais-moi oublier cela. Parce que je sais, Seigneur, que je ne l'oublierai jamais, c'est vrai, mais tu vas enlever la souffrance qui est attachée, eh bien, Seigneur, au souvenir. Et je te bénis, je te rends grâce. Passe dans les rangs maintenant. Fais du bien. Accorde ta grâce et ta bénédiction. Oh, merci, mon Dieu. Tu es merveilleux, je sais que toi, eh bien, tu es un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, un Dieu qui demeure à jamais. Merci Seigneur. Amen.